Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série très importante concernant le salut. Et nous commencerons par le sujet de la prière qui est nécessaire pour le salut des âmes, comme pour beaucoup d'autres choses. Donc, que ce message puisse transformer des Saul en apôtre Paul par ces temps troublés et puisse également, pour cette humanité, avant qu'il soit trop tard, être encore une période de salut. Aussi pour cela, chers amis, nous sentons tous le besoin d'en faire une année de prière. Oui, nous sentons le besoin de nous réveiller dans ce travail à genoux. Et cela, le plus puissant de tous. Croyez-moi, c'est important. Nous sentons le besoin que notre Dieu daigne vivifier nos eaux qui sont desséchées, et qu'il daigne réveiller nos familles et nos églises. Donc, bénissons Dieu, car ce besoin, ce désir, cette faim et cette soif de l'esprit, cette recherche plus sérieuse, plus vivante de la prière, soit de la prière individuelle, soit de la prière collective, ne sont-elles pas déjà un commencement de réveil? Ne sont-elles pas déjà un premier exaucement? Cependant, disons-le, nous n'avons obtenu que peu de choses en comparaison de ce qu'il faut obtenir. Voyez-vous, les vierges sages, elles s'aperçoivent qu'elles se sont endormies et s'en affligent. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'elles rallument leurs lampes et reprennent leur marche au-devant de l'époux. Il faut que, luttant plus énergiquement que jamais contre l'ennemi qui veut anéantir leur œuvre et leur force, et qui se sert pour cela de tous les moyens contre l'affaiblissement de la foi, l'inquiétude, l'adversité, la maladie morale et physique et l'impuissance à la prière, les mille liens, enfin, qui clouent à la terre l'âme qui voudrait s'élever. Il faut donc, dis-je bien, qu'il prenne toutes les armes de Dieu, selon Éphésiens, chapitre 6. Elle se réveille dans le combat. Il faut qu'elle redevienne des Jacob, luttant avec Dieu, pleurant et demandant grâce. Osée, chapitre 12. Et cela jusqu'à ce que la bénédiction descende. À qui d'entre nous n'aspirerait à ce beau nom d'Israël? Ah oui, voyez-vous, qui d'entre nous n'aspirerait pas à ce beau nom d'Israël, le vainqueur définitif qui est Yahvé l'Éternel, qui de nous, oui, je vous le demande, qui de nous voudrait au dernier jour entendre ce reproche de la bouche de nos enfants ou de celle de nos parents, de nos amis, de nos voisins? Tu pouvais m'obtenir le salut, toi, et pourtant, tu ne l'as pas fait. Quelle sérieuse pensée, ne croyez-vous pas? Oui, chers frères et sœurs, puisse donc cet appel que nous aurons reçu à son aurore ne pas retomber comme un poids douloureux sur notre conscience. S'il nous fallait par exemple une fois encore nous dire « Mon âme, as-tu prié comme tu le devais ?» Je répète, une fois encore, il fallait encore nous dire peut-être « Mon âme, as-tu prié comme tu le devais ? Alors, humilie-toi, si ce n'est pas le cas. Humilie-toi. » Chers amis, nous n'obtenons pas. Pourquoi ? Mais parce que nous demandons mal, selon Jacques, chapitre 4, verset 3. Toutefois, me direz-vous, si nous n'avons point assez prié, nous avons pourtant fait des prières. Oui, prières individuelles, prières de famille, réunions de prières, grâce à Dieu. Et grâce à Dieu, nous pratiquons tout cela plus ou moins. Plus ou moins, on peut dire, suivant le temps, bien ou mal, et suivant notre capacité, bien entendu. Oui, j'ai dit bien ou mal, en effet. Et probablement plus souvent mal que bien. Si je juge, par exemple, de moi-même, alors il faut du moins que cela soit pour que depuis tant d'années que nous crions, que ce soit que ton règne vienne. N'oublions pas de dire que ton règne vienne. Et ce règne, qu'il ne soit pas plus évident parmi nous, il faut bien que cela soit pour que, malgré tous ces soupirs pour la bénédiction de notre peuple, l'ennemi n'en ait pas moins fait son œuvre, pour que l'orgueil, pour que l'égoïsme, l'amour de l'argent, le luxe, l'immoralité croissent, et cela croisse d'année en année. Ça, vous pouvez le voir à la télévision, dans les journaux, partout, au lieu de diminuer. Donc, c'est plutôt en augmentation. Tout ce qui est négatif semble être en augmentation. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu ? Je vous le demande. Pourquoi notre niveau religieux reste-t-il toujours à peu près le même ? Tant de haut et de bas, réveil partiel, relâchement général, richesse de lumière, excellente théorie, mais très peu de pratique. Pourquoi ? Ah, voyez-vous, ce pourquoi, mes amis, ce pourquoi ne remue-t-il pas les fibres les plus sensibles de notre cœur chrétien ? Pourquoi avons-nous prié et nos enfants ne sont pas convertis ? Qui sait même s'ils n'ont pas empiré ? Pourquoi avons-nous prié et nos logements ou nos maisons ne sont pas des sanctuaires ? Qui sait même si elles ne sont pas des maisons de querelles, de mondanité, de toute espèce de trouble et de mal ? Qui nous donnera le temps des Farel, des Wesley et des Luther, des Calvin ? Ce pourquoi, si douloureux, plaçons-le sérieusement sur nos consciences et ouvrons ensemble la sainte parole et demandons-lui la réponse. Vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Que faut-il donc faire pour demander bien ? Ou, en d'autres termes, quelles conditions Dieu met-il à l'exaucement de la prière ? Étudions-en quelques-unes. Selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, la Bible dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis ensuite viens pour présenter ton offrande. Et d'abord, j'ouvre l'évangile, et je suis surpris d'y voir que la première condition mise à l'acceptation de nos prières, c'est une simple règle de charité. C'est un point plus délicat qu'on ne le pense. Chers frères et sœurs, soyons sincères. N'éprouvons-nous pas, en entendant ces paroles, un sentiment pénible, un certain malaise, un je ne sais quoi de vague, d'angoissant, qui nous dit « Es-tu bien réellement en paix, toi, avec tous tes semblables ? L'es-tu au moins autant que cela dépend de toi ? Si cela n'est pas frère ou sœur, il faut que cela soit maintenant. Pour que Dieu veuille effacer tes péchés, il faut que tu oublies ceux des autres. Sonde-toi d'abord, non dans les faits seulement, mais dans les pensées secrètes, dans les mouvements cachés et profonds de ton cœur et de ton esprit. Mets-toi, on peut dire, en quelque sorte à nu devant ton Dieu, et demande-lui d'être bien droit, car cela est quelquefois difficile quand il peut en résulter une humiliation. Ah, si l'Esprit de sainteté vient à te dire « Toi, tu es cet homme-là, tu as manqué de charité vis-à-vis de tel ou tel, il n'y a pas à hésiter, tu sais ce que tu as à faire, alors va ». Va, mon frère, va, ma sœur, et que Dieu t'accompagne. Il aplanira ton sacrifice, et après l'heure de l'humiliation, combien l'heure de la prière sera doublement bénie. La paix coulera en toi comme un fleuve, et cela au pied du trône de grâce. Ô chers enfants, du Dieu des miséricordes, chers disciples du Sauveur de paix, chers auditeurs et auditrices de la sainte parole de charité, quand bannirez-vous, oui, quand bannirez-vous du milieu de votre famille évangélique en tout lieu les dissensions, les amertumes, les animosités de tout genre? Supposez un père sage instamment prier par ses enfants de leur accorder un bien précieux. Mais voici, tout en le priant, ne se mettent-ils pas à se disputer, à se battre au pied même de ce vénérable père? Que fera-t-il? Ne leur dira-t-il pas? Quand vous serez d'accord, je pourrai vous écouter, mais jusque-là, je ne veux rien de vous. Chers frères et sœurs, si vous voulez que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos offenses, vous pardonnez vous également. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il nous pardonne, qu'il me pardonne, je dois apprendre à pardonner aux autres, car celui qui prétend aimer Dieu sans aimer son frère ou sa sœur est un menteur. Comment aimera-t-il Dieu qu'il ne voit même pas? S'il n'aime pas son frère qu'il voit parfois, presque tous les jours ou à tout cas souvent, il n'y a pas d'alternative. Il faut ou nous arrêter de prier ou obéir à ce commandement qui dit « Va et réconcilie-toi ». Je répète, « Va et réconcilie-toi ». Courage donc, frères et sœurs, et qu'une pluie d'amour, une pluie de paix puisse venir arroser tous nos cœurs et les réjouir comme celui de notre Père par la cessation de toute brouillerie, de toute aigreur, de toute susceptibilité parmi nous. C'est important. Heureux donc ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Chers amis, un sujet qui touche de près au précédent, au sujet précédent que nous venons d'avoir, ce sont les jugements téméraires qui ont, hélas, un cours beaucoup trop habituel chez nous, même parmi les véritables chrétiens. Oui, mes frères et sœurs, ne vous est-il jamais arrivé de souffrir en vous sentant incompris? Combien de fois nous nous sentons incompris, ça m'arrive aussi, par nos proches. Vous aviez agi pour le bien, n'est-ce pas? Et tout plein de votre bon sentiment, oui, vous alliez à votre frère le cœur ouvert et l'amour sur les lèvres, et votre élan chaleureux a rencontré que de la glace. Parfois même, un léger mouvement du coin de la bouche vous a fait pressentir la raillerie muette qui se cachait sous la parole polie, car on est toujours très poli en bonne société, on est poli même en blessant, parfois terriblement et douloureusement. D'où vient donc ce froid? La sympathie, le lien des vrais chrétiens en tout lieu, serait-il anéanti parmi nous? Pourquoi ton cœur, tout palpitant d'amour fraternel, ne rencontre-t-il qu'une pierre? C'est terrible cela. Pourquoi cela n'est pas étonnant? Au lieu de t'aimer, on te juge. On te juge à tout moment. Et pendant qu'entraîné vers ton frère ou ta sœur, tu ne pensais qu'à lui faire du bien, qu'à en recevoir de lui, oui, de lui calme, silencieux, réfléchi, au lieu de t'écouter, de t'examiner et de t'observer sans cesse du coin de l'œil, pour mieux te juger. Il cherche en lui-même à se faire une idée de ton caractère, de tes facultés, parfois qui chancelle, et de ton jugement. Et trop heureux es-tu s'il n'apporte pas déjà toute faite, et je voudrais dire tout cuit, n'est-ce pas? Quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, la prévention qu'on s'est formée contre toi. On a déjà préparé contre toi toutes sortes de pensées négatives. Oui, tu as donc souffert ainsi plus d'une fois. Et comment? Et dans le sentiment de ta bonne conscience, tu te consoles en te répétant « Mais après tout, c'est Dieu qui me juge. Que m'importe le reste ? L'homme spirituel peut juger de toutes choses, dit saint Paul, mais personne ne peut juger de lui. Personne ne peut juger de lui. Pourquoi donc l'as-tu jugé toi? Ce sont pas des choses à faire. Ce dont il te fait souffrir, ne l'as-tu pas fait 1000 fois à son égard? Oui, toi, toi qui condamnes ton frère ou ta sœur et qui fais les mêmes choses, si tu ne veux pas être jugé, alors ne juge pas non plus autrui. Pour cela, veille sur ton cœur plus encore que sur ta bouche. Arrête à temps ce regard, cette sonde maudite, jetée sur le fond intime de ton semblable, et que ton imagination seule, peut-être, va manier, et laisse donc, laisse à ton Dieu l'état d'âme de sa créature. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger, non à toi. Oui, toi, pauvre ver de terre. Donc, si seulement je pouvais apprendre à me préoccuper davantage de ma poutre, bien plus que de la paille de mon frère. Ah oui, me garder avec soin, c'est important, de tout le vin des pharisiens. Et puissais-je fuir? Oui, ça veut dire, il vaudrait mieux pouvoir fuir, entre autres, ce piège satanique et subtil qui me fait commettre ce péché du jugement jusque dans la prière, et en y faisant la leçon à mon frère ou à ma sœur, quand je ne suis moi qu'un pauvre pécheur supporté par grâce, par le Maître divin au pied duquel je me prosterne avec lui. Si seulement je pouvais apprendre aussi chaque fois que j'aurai à souffrir des jugements de mon prochain, au lieu de m'envelopper dans ma propre dignité blessée et me retirer à l'écart, si seulement je pouvais apprendre à regarder non à l'homme, mais à Dieu. N'est-ce pas lui, en effet, qui permet cette erreur pour répondre à mes prières? Je lui disais, « Sanctifie-moi, ô Dieu, arrache l'orgueil de mon âme. » Et lui m'a répondu, « Eh bien, voilà ce que les autres pensent de toi, sonde ton cœur, jusque dans ses replis cachés. N'aurait-il point raison en ceci et peut-être aussi en cela ? Humilie-toi donc devant moi, et je te relèverai quand le fruit de cette humiliation aura été produit dans ton âme. » Chers amis, levons à Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Irai-je plus loin sur le trop riche, mais bien triste sujet des lacunes de notre charité, cause fréquente, et je le pense, du non-exaucement, on peut bien le dire, de nos prières. Entretenons-nous ensemble dans l'examen des devoirs domestiques. Et je vous le dis encore une fois, essayons d'entrer tous ensemble dans l'examen des devoirs domestiques. Et pour approfondir ce sujet-là, Il y aurait évidemment trop à dire, donc tenons-nous-en à quelques points particuliers. Par exemple, il est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, « Marie, ne vous emportez point contre vos femmes, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Oui, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et Marie, femme, père, ne vous ai-je pas entendu dire quelquefois, je ne sais ce qui m'arrive, je ne peux plus prier, je ne peux plus m'élever à Dieu, je ne suis pas heureux en priant. Et en avez-vous cherché la cause? Peut-être est-ce la colère conjugale, la dispute fraternelle, comme on dit, ne sont-elles pas bien souvent comme un voile épais entre votre âme troublée et Dieu, et lui qui ne veut être servi que dans l'amour? Que de fois angoissé, malheureux de ne pouvoir trouver mon Dieu et de sentir sa face voilée, que de fois ne me suis-je pas levé pour courir à ce parent, à cette personne vis-à-vis de qui j'avais pourtant péché, et dans un simple « pardonnez-moi ». Et que de fois n'ai-je pas retrouvé totalement la paix de mon cœur et de mon âme? J'ai connu une servante, on dit bien sûr aujourd'hui une aide ménagère, pauvre selon le monde, mais riche en Dieu. Son caractère était fier, susceptible, violent, et pourtant elle était devenue une des plus douces et des plus humbles chrétiennes que j'ai jamais connues. Savez-vous comment? Par cette seule recette, que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. Je répète, que le soleil ne se couche jamais sur ta colère ou sur ton état d'être fâché. Et la colère des chefs de famille, combien plus encore, ne trouble-t-elle pas la paix des maisons, des appartements? Comment, après une impatience, peuvent-ils ouvrir la sainte parole au culte familial et prêcher sur la charité? Veulent-ils donc apprendre l'hypocrisie à leurs enfants? Ou leur faire croire que les commandements de Dieu ne sont plus que du bruit? L'Écriture sainte parle-t-elle en vain? Dieu n'est-il pas un Dieu de vérité? N'est-il pas un feu consumant? Et si toi, Père, tu irrites ton enfant sous prétexte de faire son éducation, crois-tu qu'il s'agenouillera bien volontiers à tes côtés? Et toi, enfant, qui garde rancune à ton compagnon de jeu, qui médite peut-être quelque vengeance contre lui, ou qui a menti à tes parents, oublions que tous les menteurs seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. Crois-tu donc que ton baiser trompeur, après la prière du soir, ne t'attirera pas le courroux de celui qui ne bénit que les enfants droits? Et toi, riche, qui te traite délicatement en oubliant le pauvre Lazare couché dans ses ulcères et dans ses haillons, et toi, pauvre, dont le cœur bouillonne d'aigreur et d'envie contre les heureux de ce monde, croyez-vous que l'offrande que vous apportez à l'autel dans le même temps, chaque dimanche matin, en vous haïssant l'un l'autre, hélas, sera bien accepté par celui qui a horreur du formalisme à celui qui regarde au cœur. Ah oui, il y aura trop à dire, en effet, sur ces sujets-là, sur lesquels l'examen de sa propre âme en apprend beaucoup plus que celui des autres. Prenons donc plutôt la Bible, taisons-nous et ouvrons-la, vous et moi, à ses commandements précisant nos devoirs, et puisse l'Esprit Saint de Dieu nous convaincre lui-même de péché et de nous faire jeter, comme Daniel, la face contre terre, pourquoi pas, en répétant après lui, « Hélas, Seigneur, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. À toi et la gloire, elle revient uniquement à qui ? À toi, Dieu trois fois saint, vient la gloire uniquement à toi. Et nous, à nous, viendra peut-être la confusion. Nous avons tous, voyez-vous, transgressé la loi de Dieu. Et nous sommes donc tous détournés pour ne point écouter la voix de Dieu. Seigneur, pardonne, et Seigneur, fais grâce. Et cela se trouve dans Daniel, au chapitre 9. Je le répète simplement, nous avons tous transgressé ta loi, nous nous sommes détournés pour ne point t'écouter. Alors, Seigneur, pardonne, et Seigneur, fais-nous grâce. L'avez-vous senti comme moi, chers amis? J'ai cru pendant longtemps que lorsque j'avais fait ma prière le matin et le soir, et que j'avais été à un culte le dimanche, j'étais pour ainsi dire en règle avec Dieu. Nos autres devoirs sont très nombreux, la vie si pleine et le temps si court. J'aurais voulu prier davantage, mais comment faire? Je ne disais cependant pas avec le monde « Qui travaille, prie ?» Non, 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 mais je pensais qu'il fallait laisser aux gens qui ont des loisirs ces multiplications de cultes particuliers ou publics qui ne sont point l'affaire de l'homme occupé. Il est à remarquer ici, en passant, que là où on a fait des réunions de prière à midi, ce sont des employés, ce sont des travailleurs qui y sont allés et qui, en le faisant, ont sacrifié leur seule heure de repos. Présenterai-je à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent absolument rien? C'est ce qu'a dit David. Dieu nous ordonne de travailler, ça c'est vrai. Et voilà pourquoi je serai actif et assidu dans ma profession pour obéir à mon maître encore plus que simplement pour gagner de l'argent. Mais voici qu'au moment où j'affirme qu'il est impossible d'enlever une heure à mon travail, il me survient une occasion imprévue. C'est un plaisir ou quelques affaires intéressantes en dehors du cadre habituel de ma vie. La chose me plaît, cela me va, c'est le mot sans réplique que vous savez. J'irai donc, et alors le travail, et alors le devoir. Ah ah, à ceci en vaut bien la peine. coûte que coûte, eh bien je le ferai. Et dussé-je même veiller cette nuit, pourquoi pas ? Voyez-vous, un homme ainsi s'est réveillé pendant la nuit pour suivre son goût, son plaisir et ses affaires. Et c'était un roi, c'était pas n'importe qui. Et trois fois par jour ne lui suffisait pas, car il prenait son plaisir en l'Éternel qui lui accordait en retour ce que demandait son cœur. Je pense donc que la tâche écrasante d'un roi comme David, car il s'agit de David, qui était en même temps législateur, organisateur du culte, littérateur et compositeur de musique, je pense que cette tâche valait bien la mienne. Et là-haut, maintenant, que pense-t-il de mes difficultés sans nombre ? Ah, ne voudrait-il point aussi, comme le riche de la parabole dans l'intérêt de notre salut, nous envoyer un Lazare pour nous dire « insensé » ou « vraiment, oui, insensé ». Que te sert-il, à toi, de gagner tout le monde si tu négliges ton âme ? Cherche donc avant tout le royaume des cieux et surtout sa justice. Ça vaudrait la peine de le répéter. Rappelez-vous, Lazare, quand il fallait dire aux riches, insensé, oui, insensé, que te sert-il donc de gagner tout le monde, si tu négliges ton âme? Que te sert-il d'avoir des biens partout, d'avoir des comptes en banque, si tu perds ton âme? Cherche donc avant tout le royaume des cieux et sa justice. Chers frères et sœurs, si nous adoptions pendant quelques jours seulement l'emploi du temps de David, croyez-moi, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a mentionné cette prière de midi. Quand nous avons prié le Seigneur au petit déjeuner, en nous levant péniblement, trouvons-nous que cela suffise pour tout le reste du jour? Je vous le demande. Les forces du corps n'ont-elles pas besoin, malgré le petit déjeuner du matin, d'être réparées quelques heures plus tard, et cela sans gêner en rien le repas du soir? Et moi, pauvre en biens spirituels, plus encore qu'en richesse, temporelle, il faut bien le dire, je négligerais une invitation quelconque de mon souverain? Ah, s'il daigne m'appeler à un repas de famille au milieu de ses enfants bien-aimés, pourrais-je m'en priver légèrement, même s'il fallait y sacrifier quelque chose d'important et travailler une heure de plus le soir, ou peut-être le matin, pour finir mon ouvrage? C'est ce que faisait une ouvrière d'une certaine ville qui allait travailler une heure plus tôt le matin afin de ne pas manquer la réunion de son église le soir. Cela dit, désormais, les intérêts de mon âme, ceux de mon maître, doivent passer avant tout. Et je ne soignerai pas moins la santé de mon âme, si précieuse à mon Dieu, que celle de mon pauvre corps, que les vers rongeront très bientôt. J'essayerai donc de surmonter les difficultés, de changer le plan de mes journées, de mes affaires, de mes repas, pour aller prendre ma part de la bénédiction que l'on trouve en recherchant fiévreusement, soigneusement, là où on a fait des réunions de prière à midi. Ce sont des employés et ce sont des travailleurs qui y sont allés et qui, en le faisant, ont même sacrifié leur seule heure de repos. Présenterai-je à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent absolument rien? C'est ce qu'avait dit David. Dieu nous ordonne de travailler, ça c'est vrai. Et voilà pourquoi je serai actif et assidu dans ma profession pour obéir à mon maître encore plus que pour gagner simplement de l'argent. Mais voici qu'au moment où j'affirme qu'il est impossible d'enlever une heure à mon travail, il me survient une occasion imprévue. C'est donc un plaisir ou quelques affaires intéressantes en dehors du cadre habituel de ma vie. La chose, elle me plaît. Cela me va. C'est le mot sans réplique, vous savez bien. J'irai donc. Et alors le travail. Et alors le devoir. À ceci en vaut la peine. Cela vaut la peine. Et coûte que coûte, je le ferai, même si je devais veiller cette nuit encore. Un homme ainsi se réveillait un jour pendant la nuit pour suivre son goût, son plaisir et ses affaires. Rappelez-vous, c'était un roi. Trois fois par jour ne lui suffisait pas, car, voyez-vous, oui, car pourquoi? Car il aimait l'Éternel son Dieu, et l'Éternel son Dieu lui accordait en retour tout ce que demandait son cœur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que la tâche écrasante d'un roi comme David, qui était en même temps, rappelez-vous, législateur, organisateur du culte, il était même compositeur de musique et beaucoup d'autres choses. Croyez-moi, c'était quelqu'un, David. C'était merveilleux. Donc, désormais, les intérêts de notre cœur doivent être ou devraient être pour notre maître divin. C'est cela qui est important de nous rappeler. Et là, chers amis, à genoux, seuls ou avec les autres, nous pourrons oublier pour un moment tous les tracas de ce monde. Nous pourrons rafraîchir notre cœur à la source et nous éclairerons notre esprit à la lumière divine. Et puis après, cette bonne bouchée, comparable au gâteau que l'ange consolateur a fait manger à Élie, nous reviendrons plus forts pour le combat et nous reviendrons plus heureux pour la traversée du désert. Cela est dit pour moi qui me tenais volontairement à l'écart. Mais toi, mon frère, ma sœur, toi que le zèle de la maison de Dieu dévore, toi dont on peut dire que la foi renverse des montagnes, toi qui vas comme Marie t'asseoir une heure au pied du maître, toi, oui, toi qui as faim et soif de la bénédiction promise à ceux qui prient sans cesse, c'est un devoir impérieux et sacré de retenir cela et ainsi de regarder à Dieu, se soumettre à lui pour renoncer à quelques plaisirs de nos sens. Et pendant que les frères et sœurs prient, pendant qu'ils travaillent en paix, eh bien ta main agite, mais ton cœur est en haut. Oui, ta main, elle agit, car elle n'est pas inerte, mais ton cœur, il est en haut, et cela suffit amplement, car tu travailles, mais en même temps, tu es en pensée avec ton esprit, avec ton cœur, avec le Seigneur. Et puis laissez-moi aussi de vous dire une consolation. Si tu n'as pas le jour à toi, tu as peut-être la nuit. Et pourquoi pas faire comme David ? Demande à Dieu de t'éveiller et alors tu le verras, tu l'entendras bien mieux quand on cessé vraiment tous les bruits de la terre, quand a cessé tout ce brouhaha autour de nous qui nous empêche de nous concentrer. Puisses-tu donc, mon cher frère et sœur, jouir en plein de l'ineffable bonheur du face-à-face avec l'Éternel comme un ami avec son intime ami. Et toi, malade couché sur un lit de souffrance, dont la tête obscurcie, ne peut même plus saisir nettement la prière, demeure tranquillement en paix, car tes frères et sœurs, ils prient, même ton Sauveur prie, tu n'es donc pas oublié. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Oui, pour notre âme, Jésus prie. Dans cet instant, aux charités, il plaide, il intercède, il crie pour nous qui t'avons contristé. Sous le parfum de ta prière, fais-nous marcher remplis d'ardeur. Pour te bénir, notre âme entière, elle s'élève à toi, puissant Sauveur. Nous allons, chers amis, prier pour terminer ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces, toutes les faveurs dont tu ne cesses de combler tes enfants. Mais qui sommes-nous pour t'offrir nos supplications et nos prières? Nous sommes de faibles créatures, dont le cœur est souillé d'innombrables transgressions à ta loi sainte, dont l'ingratitude, les révoltes continuelles devraient encourir chaque jour de justes châtiments. Seigneur, si tu nous protèges, si tu nous écoutes, si tu nous exauces nos prières, c'est que nous trouvons miséricorde devant toi uniquement par Jésus-Christ, notre adorable Sauveur. C'est lui seul qui nous justifie en ta présence, ô Père, et qui nous ouvre les trésors impuissables, inépuisables de ta grâce. Oui, Dieu de bonté, que ton Esprit Saint puisse nous soulager dans nos faiblesses et qu'il nous enseigne à te prier, et qu'il nous inspire de saintes pensées, et qu'il nous dirige en toute vérité. Affermis donc nos pas dans la route qui conduit à ta sanctification. Sanctifie-nous véritablement nos cœurs et notre esprit. Élève à toi nos âmes. Sois avec nous pendant cette journée et protège-nous comme tu l'as fait durant la nuit dernière. Bénis donc nos familles, nos amis, tous les hommes qui sont nos frères et sœurs. Soutiens et fortifie tous ceux que tu visites par des épreuves de quelque genre qu'elles soient. Ô notre Dieu, exauce nos imparfaites prières au saint nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Chers amis, je voudrais peut-être vous mettre un ou deux chants qui sont, il y a déjà 50 ans, il y a bien longtemps, et que c'était quand j'avais fondé une mission sur cassette. Les chants sont peut-être un peu usés, parce que c'était des cassettes, mais l'essentiel, c'est de pouvoir encore comprendre les paroles. Alors j'essaye de vous en mettre un ou deux chants. À bientôt à nouveau et soyez bénis.
En effeuillant la marguerite par une belle journée de printemps, en effeuillant la marguerite, je m'amusais follement. Et le soleil brillait, heureuse je riais. Et le soleil brillait, gaiement je répétais. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Si tu me dis je t'aime un peu, cela me rendrait malheureux. Et si tu dis m'aimer beaucoup, ça ne me rassure. Passionnément serait pour moi le plus beau mot venant de toi. Et si tu me dis pas du tout, ça fait dans mon cœur un grand trou. Car moi je t'aime tant, passionnément, passionnément. Dans une étable simplement, je suis venue comme un. J'ai tout quitté là-haut pour toi, c'était pourtant si beau à moi. Du ciel je suis venue pour apporter l'amour. Aujourd'hui je t'ai vu et j'ai choisi ce jour pour te dire je t'aime passionnément, passionnément. Sur le mont Golgotha, ils m'ont cloué sur une croix. Ils m'ont pris pour un imposteur, j'étais pourtant le Dieu sauveur. Là j'ai donné ma vie pour toi et tes amis. J'ai pris tous vos péchés, oui j'ai tout achevé, car je vous ai. Ressuscité, glorifié, dans les saints lieux je suis monté, préparé comme je l'ai promis, d'une place pour mes amis. Alors je reviendrai pour les prendre avec moi. Veux-tu venir aussi? Alors. Oh oui, je t'aime tant, passionnément, passionnément. Crois à mon nom de tout ton cœur, répète-le avec ardeur, du monde les folles passions, à tout jamais te quitteront. Obéis simplement à mes commandes. T'aime tant, passionnément, passionnément. En effeuillant la marguerite par une belle journée de printemps. en effeuillant la marguerite, je pleurais là abondamment. Oh Jésus, prends ma vie et mets en moi ta vie, que je puisse à l'entour refléter ton amour. Je veux t'aimer, Seigneur, passionnément, passionnément.
J'ai cherché la route pour la gloire. Allais-je un jour trouver ce chemin-là? Je m'assis un instant pour reposer mes pieds. C'est alors qu'en moi une voix me dit:
tu dois marcher encore, oui, marcher encore, marchant dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit, marchant dans la lumière du Seigneur.
Longtemps j'ai prié pour qu'il m'accorde sa grâce. J'ai prié pour qu'il éclaire mon chemin. J'avais tellement peur sur cette route solitaire. C'est alors qu'en moi une voix me dit:
tous, Hosanna, Hosanna, qui attendent-ils?